Bifurcation.
Bifurcation.
Bifurcation, épisode 10.
Octobre, on freine pas.
Hello.
Hello.
On espère que vous êtes en forme.
Au programme de notre mois, regroupement à l'ESA, à Angers, pour nos cours, puis une semaine de stage pour moi dans un chantier d'insertion en maraîchage. Avant de retourner à l'Écotière, la pépinière de Rémy, près d'Angers.
En voiture. On commence par notre troisième semaine de regroupement à l'ESA. On continue nos cours de gestion, compta, et on a notre première intervention juridique. Définition de l'agriculture dans le droit français et statut juridique.
On attendait ça avec impatience car c'était un peu opaque pour nous. On a retenu finalement qu'il existe pas mal de formes juridiques pour un projet agricole. Cela permet d'avoir des statuts adaptés à chaque situation, selon les avantages et les contraintes de chaque statut. Nous concernant, on pense se faire accompagner là-dessus lorsqu'on voudra s'installer.
Côté arboriculture, nous avons eu une ouverture à une approche agroforestière du verger.
L'agroforesterie, selon l'Association française d'agroforesterie, c'est l'ensemble des pratiques agricoles qui associent sur une même parcelle les arbres, donc sous toutes leurs formes, haies, alignements, bosquets, etc., à une culture agricole et ou de l'élevage.
Ça va de la ferme au bassin versant, du champ ouvert à la forêt domestique ou au bois pâturé. Une bonne intégration des arbres et des haies en agriculture permet à la fois d'augmenter la production, de diversifier les revenus et les services écologiques, et d'assurer la préservation et le renouvellement des ressources naturelles.
L'eau, les sols et leur fertilité, la biodiversité, etc.
Découvrir un peu plus l'agroforesterie, c'était une demande d'une grande partie des arbos de la promo. Donc, moi je suis vraiment content qu'ils aient pu nous proposer ça. Le reste des cours était concentré sur la culture des petits fruits. Et on a finalement réalisé deux visites qui alliaient les deux thématiques. Une productrice de petits fruits nouvellement installée et un producteur de fraises sans bâche plastique, wouh ! Et qui a une approche naturaliste de sa production. Les deux producteurs avaient en tête de prendre soin de la biodiversité en plus de produire.
Et nous avons évidemment profité de ce regroupement pour tendre le micro à deux de nos camarades de promo.
Salut Jules ! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter aussi le projet que tu veux faire?
Ok, alors voilà, moi je m'appelle Jules Gérardin, je suis en ce moment BPREA à Angers avec toi. Moi j'ai un parcours à la base classique, à la fac de sport après mon bac. J'ai tenté le concours de prof que j'ai pas réussi, pour moi c'est plutôt en fait, c'était plutôt une chance en fin de compte. J'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, intérim, tout ça. Et puis après, j'ai fait du woofing. De fil en aiguille, je suis arrivé à faire un BPA en bûcheronnage. Et donc après ça, avec aussi un stage en permaculture qui m'a permis de découvrir la pépinière d'un fruitier dans laquelle maintenant je vais en stage. Et donc mon projet actuellement en fait il est un peu en train de changer aussi. Après mon BPRA je ferai un CS en élagage pour compléter mon diplôme de bûcheron. Donc je vais faire élagueur et ce sera mon activité principale je pense. Et en parallèle de ça peut-être mais dans un futur plus lointain un projet agricole. Donc qui serait une pépinière d'arbres fruitiers. C'est un modèle simple qui consiste en fait à greffer des arbres fruitiers en début d'année. Février-mars, après avoir prélevé les greffons. Après, il y a l'étape de paillage. En été, c'est plutôt tranquille. C'est pour ça que ça me permet aussi de faire un peu une double activité. C'est pas une activité agricole qui prend énormément de temps par rapport à d'autres. Et ensuite, à l'automne, c'est l'arrachage des arbres en novembre, décembre. Maintenant, c'est mieux de le faire en décembre plus parce que c'est à ce moment-là que les feuilles des fruitiers tombent.
T'as parlé de woofing, est-ce qu'il y a des woofings qui ont été particulièrement marquants pour toi dans ton choix de soit de faire un BPREA, soit ton choix même de parcours maintenant?
Déjà j'ai envie de dire, pour moi le woofing c'est vraiment un système génial que je conseille vraiment à toute personne, mais vraiment toute personne intéressée ou pas par l'agriculture. Ça permet de sortir un peu justement de ce système bac, études, parce que après quand tu vas faire du woofing, tu vas t'intéresser aux hôtes et à vraiment tout type de ferme. Tu peux aussi bien tomber sur une ferme qui fait des animaux ou par exemple il y aura de la laine, il y aura un atelier de tricot. Je viens d'une ferme dans un collectif de jeunes où on a retapé une maison. Enfin, ça va être une expérience qui va te sortir de ta zone de confort, c'est sûr. Mais c'est tellement enrichissant de rencontrer des gens de partout. Ça te fait grandir. C'est vraiment un truc que je conseille pour vraiment tout le monde, en fait. Ça t'apprend à te connaître. Pour moi, c'est comme une autoroute où tu ne sais pas où tu vas trop. Et puis, au fur et à mesure, le chemin un peu se rétrécit. Ça te fait une voie qui t'est personnelle un peu, qui est la bonne pour toi, où tu te sens le plus heureux, quoi. Donc, j'ai pas du coup vraiment répondu à ta question par rapport aux films marquants, mais il y en a qui m'ont marqué, surtout par les personnes qui m'accueillaient. À chaque fois, il y en a où c'était vraiment très très riche en termes d'échanges avec les gens, même si c'était pas au niveau agricole, les échanges, hein, ça pouvait être n'importe quel sujet, mais j'en ai eu en Norvège. Un élagueur, lui, c'est d'ailleurs un peu par lui que me vient l'envie aussi de faire ce métier-là. En Suède, c'était parce qu'à la base, je me suis lancé dans le woofing parce que je voulais un peu une idée d'autonomie alimentaire, énergétique, tout ça. Et donc, c'était une ferme qui se voulait autosuffisante, en tout cas qui était une ferme-école où des Suédois venaient apprendre dans cette ferme. Il y avait une douzaine d'étudiants qui étaient là à l'année. Ils vivaient dans la ferme et nous, on était des woofers à côté, 8, donc ça faisait une vingtaine de jeunes. C'était vraiment un woofing vraiment génial par rapport à l'ambiance, du coup. C'était vraiment une super expérience, c'était ma première en plus. Donc ça m'a motivé à continuer. Par la suite, pour avoir fait plus de woofing en France, je me suis rendu compte que je rencontrais plein de gens qui faisaient des BPREA pour s'installer. J'ai vu que c'était un peu la voie royale, on va dire, pour faire une reconversion et pour s'installer en agriculture. Donc je me suis intéressé à ça. Je ne voulais plus être trop sur les bancs de l'école, alors la formation à distance, ça me convenait bien. J'avais fini en juin, je crois, le BPA de bûcheron, et en janvier, il se présentait cette formation. Je me suis dit, y a comme un creux là. Du coup, j'ai refait du woofing, et en janvier, je me suis retrouvé là, et ça allait dans la continuité, en fait. J'étais déjà en woofing juste avant de commencer. Et là, en fait, ma formation me permet de continuer le woofing. Là, je fais que ça presque cette année. Je vais de woofing en woofing ou de chantier participatif. Enfin, c'est une continuité un peu logique dans mon parcours. Et en plus, normalement, si je déconne pas trop, ça va se terminer par un diplôme qui va me permettre d'avoir des aides agricoles plus tard si j'ai envie de m'installer. Ça peut aussi me permettre peut-être d'avoir une habitation sur un terrain agricole. C'est beaucoup de choses qui sont bénéfiques une fois qu'on a le diplôme, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je me suis orienté là-dedans.
Et t'es le premier que j'ai entendu parler de Saint-Tropis. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, que tu dises ce que t'en sais et pourquoi tu trouves ça intéressant.
En commençant le BPREA, je savais déjà tout de suite que je voulais pas faire mes stages dans un verger de monoculture. Donc je me suis orienté par encore le biais du woofing sur une ferme qui s'appelle les Bocaux d'Amour dans le Morvan, qui est en agriculture syntropique. Moi, là-bas, je m'étais intéressé un peu au jardin-forêt. Il y a un mec qui avait fait un bouquin que j'avais bien aimé, s'appelle Fabrice Desjours. Et lui, il disait que maintenant, il s'agissait pour l'homme de passer de l'agriculture, on va dire, sur des plaines, à l'hortus. Donc, c'est de remettre en fait l'arbre au centre de l'agriculture. C'en est venu, au verger diversifié, et puis agriculture syntropique. Et je trouvais ce système vraiment... en tout cas, sur le papier, avant d'y aller, c'était vraiment la meilleure forme d'agriculture que j'avais jamais vue, en fait. Moi, je cherche toujours à, pas seulement en agriculture aussi, mais à essayer de ne pas aller, on va dire, à l'encontre de la nature ou de faire comme elle, parce que c'est comme ça que ça paraît le plus logique et le plus vertueux. Je me suis retrouvé là-bas et j'ai pu apprendre la pratique de cette agriculture qui fait en sorte d'avoir une production, mais en plus de ça, améliorer l'environnement dans lequel on fait cette production. Ça passe par, en plus des fruitiers qui sont plantés, ou des petits fruits, des saules entre les fruitiers, des peupliers, des sureaux qu'on va tailler, donc ils vont apporter de la matière organique. En fait, c'est une agriculture qui reproduit la nature et qui va remettre au centre l'arbre. Pour moi, l'arbre, ça apporte tellement de bénéfices pour tout le monde. On pourrait faire une liste, oxygène, nourriture... ça ramène de l'eau avec l'évapotranspiration, là on a parlé tout à l'heure. Ça ramène la matière organique au sol, qui va nourrir les micro-organismes. Ça fait des habitats pour les animaux, ça nous nourrit, c'est un truc... Avec les vers de terre et les abeilles, c'est le trio gagnant, on ne peut pas faire bien mieux. Parce qu'en ce moment, en fait, l'agriculture conventionnelle ne considère pas vraiment le sol, c'est-à-dire qu'elle le prend plus comme un support à remplir de azote, potasse et, et phosphore, ouais. Plutôt que de se servir de tous les animaux qu'il y a dedans, de la vie du sol, qui fait le travail en fait à notre place si on lui laisse la possibilité de le faire, quoi. Dans l'idée, ça nous fait moins de travail, mais pour être allé en stage, c'est sûr que c'est du coup des milieux beaucoup plus complexes, très denses. Donc c'est pas évident à gérer, c'est beaucoup de manutention. Mais c'est aussi, pour avoir côtoyé les gens qui y étaient, c'était des vrais passionnés, c'était pour eux, c'était super. Et puis je me dis qu'il y a plein de gens qui auraient envie d'avoir des boulots comme ça, avec un peu une reconnexion à la nature, où on l'a vu avec le Covid, quand ça s'est passé, tout le monde s'est mis à refaire des jardins. Je me dis qu'il y aurait plein de gens en fait qui seraient à même de faire ces travaux dans les champs et qui trouveraient un vrai sens, qui kifferaient en fait. Donc je me dis pourquoi pas ce modèle-là. Là, il n'est pas encore productif parce que là où j'étais, ça, c'est seulement le début, mais il est très prometteur en tout cas.
Et par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'intéresse profondément sur le fait de respecter la biodiversité, de respecter les cycles du vivant, etc.
Oui, là c'est comme cet après-midi, on a fait un cours sur l'agroforesterie, et quand on parle de ça, je sens bien que ça me prend un peu au trip, un peu ça. C'est comme ça bouillonne un peu, j'ai envie de dire mais c'est quoi ce bordel ? C'est tellement évident qu'on doit faire ça. Mais en même temps, oui, après, il y a toutes ces réalités économiques, par contre, où là, je ne suis pas en mesure de dire, vu que j'ai pas d'exploitation, de dire oui, ça marche, ça marche pas, tout ça. Mais c'est clair que moi, j'ai envie de dire, faut foutre des arbres dans tous les sens. Mais ça en va de nos vies, quoi. Donc, il n'y aurait même pas... Il n'y a pas trop de questions à se poser, mais bon, on vit dans un monde où le poids de l'argent est a priori plus costaud pour l'instant que le reste. Donc bon, on parle toujours de dérèglement climatique. Là, tout à l'heure, il disait qu'il avait vu d'une étude, si on se mettait à planter des arbres, on avait assez de surface pour capter tout le CO2, enfin des trucs comme ça. Voilà, on a la possibilité de le faire. Pour l'instant, on le fait pas. Il faudrait qu'on y arrive, quoi. Voilà.
Complètement d'accord. Cool. Merci beaucoup, Jules. Et puis à une prochaine.
Ouais. Hello Pierre, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu le projet que tu as ?
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans. J'ai une petite fille et je suis marié. J'ai un projet de création d'une ferme de maraîchage bio diversifiée et de transformation de la production en petits pots pour les bébés.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quelle surface, puisque tu as déjà le terrain, comment tu as pu le trouver et quelles sont les premières étapes que tu as réalisées jusqu'à maintenant ?
Alors le terrain, c'est un terrain qui fait un peu plus de 3 hectares, hein, sur lequel à terme je compte cultiver 8000 m² de plein champ et 1600 m² de serre. Jusqu'à présent, donc, j'ai été en contact avec la Chambre d'agriculture, ça a été mon premier interlocuteur parce que je ne savais pas trop par où commencer et naturellement je me suis tourné vers eux. La Chambre d'agriculture avec laquelle j'ai fait 2 petites formations, une sur l'assolement, une sur la fertilité des sols, avant même d'avoir trouvé mon terrain et d'avoir pu avancer dans mon projet. Et aujourd'hui, donc, j'ai commencé le parcours 3P avec la Chambre d'agriculture. J'ai fait le stage 21h. Et sur mon terrain, donc, j'ai trouvé un terrain grâce à la mairie de mon village qui va me le louer. Aujourd'hui, ils n'avaient pas de maraîcher sur place, donc ils cherchaient à installer un maraîcher. Je suis l'heureux bénéficiaire de ce projet. Et donc sur mon terrain, pour l'instant, donc, la première chose que j'ai fait, c'est le faire certifier en bio avant de faire quoi que ce soit dessus. C'est important... si c'est une friche, avant même de débroussailler ou de faire quoi que ce soit, de faire passer une certification bio, ça évite d'avoir les 3 ans de conversion. Donc là, je pourrais être directement en bio. Ensuite, j'ai fait une demande d'autorisation d'exploiter. Je ne l'ai pas naturellement parce que je n'ai pas encore le BPREA. J'aurai le BPREA que dans un peu plus de 6 mois. Donc, obligé de faire une demande d'autorisation d'exploiter qui peut prendre jusqu'à 4 mois, peut-être 6. Normalement, 4 mois. Et là, je suis en train de faire les dossiers pour les autorisations pour les forages.
Est-ce qu'on peut faire un petit zoom et que tu nous expliques ce que c'était ce stage 21h dont on entend tout le temps parler quand on se lance en tant qu'agriculteur ?
Alors le stage 21h, c'est un stage qui dure 3 jours. Grande surprise. Non, en fait, le but du stage 21h, c'est de rencontrer un maximum de professionnels du milieu agricole avec lesquels on va avoir des interactions à un moment ou à un autre. Donc par exemple, on rencontre la MSA, on rencontre évidemment la Chambre d'agriculture, nous on a rencontré la Fédération des CUMA, on rencontre une banque. Ça nous permet en 3 jours d'avoir un panorama de tous les acteurs à rencontrer. Moi je trouve ça très dommage qu'ils ne soient pas placés au tout début du parcours, parce qu'en fait au moment où je fais moi le stage 21h, j'ai rencontré à peu près déjà tous ces acteurs-là de mon côté pour pouvoir faire avancer mon projet. Si les chambres d'agriculture nous écoutent, le stage 21h au tout début du parcours, ça serait top pour donner un aperçu global de tout ce qu'on va avoir à faire.
Du coup, dans ton projet, il y a la partie production, mais aussi la partie transformation, là, en petits pots pour bébés. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi des petits pots pour bébés et puis comment tu imagines faire cette transformation ?
Alors, pourquoi les petits pots pour les bébés ? J'ai été fortement inspiré il y a 2 ans quand ma petite fille est née. Pas forcément à pas trouver exactement ce que je voulais, parce qu'il existe des petits pots pour les bébés, bio, etc. Mais en fait, on a fait le choix de faire nous-mêmes avec ma femme à cette époque-là. On s'est beaucoup amusé à faire ça, à faire des recettes un peu spéciales. Et dans le même temps, j'ai rencontré des crèches, par exemple, surtout des crèches, qui m'expliquaient vouloir avoir une histoire à raconter autour de la nourriture qu'ils proposaient pour les enfants et avoir du mal à trouver des artisans. Et des agriculteurs qui faisaient ce genre de produits. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Il y a aussi une part non négligeable du choix qui est par rapport au temps de travail. C'est pas que je vais avoir moins de temps de travail en faisant de la transformation, mais il va être divisé différemment. Typiquement, un maraîcher qui vend sur les marchés doit avoir X kilos de courgettes qui arrivent toutes les semaines pour avoir une proposition intéressante pour ses clients. Dans mon cas, si j'ai toutes mes courgettes qui arrivent d'un coup, c'est moins grave parce que je vais les transformer après. Donc moins de temps de travail passé sur l'exploitation, ou en tout cas différemment. Ça bien participer à mon choix. Et la transformation, l'investissement dans un laboratoire est très 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 élevé. Donc dans mon cas, j'ai la chance d'avoir une CUMA qui est pas très loin de mon exploitation et qui a un laboratoire de transformation qui est très très bien équipé, qui peut faire des gros volumes. Donc je vais m'appuyer sur cette CUMA. Donc l'objectif d'une CUMA, c'est de mettre en commun du matériel qui est normalement relativement peu utilisé par un agriculteur. Prends l'exemple d'un tracteur, d'un très très gros tracteur qui va tourner peut-être j'ai même pas d'ordre d'idée, 50 heures par an sur une ferme. L'idée, c'est de mutualiser cet achat entre plusieurs agriculteurs pour qu'au lieu de tourner 50 heures par an, il tourne peut-être 500 heures par an chez plusieurs agriculteurs. Donc l'agriculteur, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas d'investissement à faire et qu'il peut utiliser, payer à l'heure au moment où il utilise ce produit-là. Donc c'est quand même une plus grande liberté et surtout, dans le cas, moi, par exemple, de la transformation, même s'il y a une étude de marché, je ne sais pas si ça va fonctionner demain. Donc investir peut-être 50 000 euros dans un laboratoire professionnel pour un produit qui ne va peut-être pas marcher demain, c'est compliqué. Là, la CUMA permet de tester à moindre coût ce produit-là.
Et du coup, tu as commencé à parler un tout petit peu des investissements que tu aurais dû faire si tu voulais avoir un laboratoire. Est-ce que tu peux nous dire les investissements que tu imagines faire du coup, en dehors de ce laboratoire et un petit peu comment tu l'as intégré à ton business model et à quel point du coup, la Chambre d'agriculture a validé ou pas ce modèle ?
Le principal investissement, c'est les serres. Comptez, dans mon cas, 20 000 euros à peu près par serre avec l'irrigation à l'intérieur. Donc en tout, vous comptez à peu près 80 000 euros pour les serres. Ensuite, il y a le forage, qui est un investissement non négligeable et qui surtout est très dépendant de la zone géographique où on est, de là où on peut trouver les nappes, avec quel débit, etc. Ensuite, il y a le petit matériel, tout le petit matériel qui va me servir au quotidien, entre guillemets. Là, on est autour de 15 000 euros de petits matériels. Et ensuite, il y a donc une fourgonnette pour apporter ma production au laboratoire et faire les livraisons. Voilà, je pense qu'on a les grandes masses là. Si on prend les serres, l'irrigation, forage, fourgonnette et puis petits matériels du quotidien, c'est pas mal. Après, je prévois des investissements au début pour immatériel, entre guillemets, donc beaucoup d'amendements parce que mon terrain et sableux avec un pH très faible et un taux de matière organique très faible. Donc il y aura beaucoup d'amendements la première année et puis beaucoup d'amendements les premières années. C'est un investissement qui n'est pas négligeable pour trouver un amendement qui soit bio, qui puisse être livré sur place, vu qu'on parle de plusieurs dizaines de tonnes. C'est un coût qui n'est pas négligeable aussi. Alors un amendement, je vais avoir du BRF et je vais avoir du compost. Qui est livré par une déchetterie chez nous qui a été labellisée bio pour ça et qui transforme ses produits. Donc c'est la déchetterie du Sitcom des Landes qui va me livrer ces amendements-là.
Et du coup, avec tous ces investissements, qu'est-ce que tu imagines comme chiffre d'affaires dans les prochaines années? Et est-ce que tu t'es déjà donné un objectif de rémunération? Parce qu'on trouve que c'est important comme sujet, nous notamment dans notre questionnement d'installation. Est-ce qu'on va réussir un jour à vivre de ce métier?
Alors, l'installation et le nombre de mètres carrés dont je vous ai parlé tout à l'heure sera progressif dans mon installation. Je prévois à terme, quand tout sera installé, d'avoir à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. À 3 ans, je serai à 50 000 euros dans les prévisionnels, en tout cas. Ma rémunération, alors il faut prendre en compte quelque chose d'un peu particulier, c'est que je vais avoir une structure qui sera une SAS, donc une société et pas une entreprise individuelle. Donc je vais avoir une rémunération qui sera chargée et assimilée salariée. Donc moi, je me suis prévu un coût chargé pour l'entreprise de 23 000 euros, ce qui correspond à peine plus que le SMIC.
Et du coup, si on ouvre un des petits pots pour bébé ou tous les petits pots que tu vas produire, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans?
Alors, le but du jeu, c'est de faire du maraîchage diversifié, donc avoir un peu de tout comme légumes, des légumes de saison. Mais si je peux en citer, il y aura des pommes de terre, évidemment, qui serviront de base dans beaucoup de petits pots. Pommes de terre, carottes, courges, un peu de vente sur place, donc avec des tomates qui sont un peu plus difficiles à intégrer dans la transformation. Il y en aura un petit peu, mais il y aura des tomates, des courgettes, des petits fruits rouges sur une autre parcelle avec des framboises, des groseilles, du cassis, des choses comme ça. Et un peu plus loin dans le temps, des noisettes, des châtaignes, qui serviront aussi demain à faire des recettes sucrées pour les petits pots bébés. Les petits pots bébés, il y aura plusieurs gammes en fonction des âges, avec certains qui seront avec un seul ingrédient pour la découverte alimentaire, d'autres qui seront avec des ingrédients mélangés, des textures plus ou moins lisses en fonction des âges aussi des enfants. Et la ferme s'appellera Salsifi et compagnie.
Et avant tout ça, tu viens d'où ?
Alors j'ai eu plusieurs parcours avant ça. J'ai grandi dans la ferme familiale de mon grand-père dans l'Aveyron. J'ai été ensuite charpentier. Puis j'ai créé des entreprises dans le domaine de l'agriculture urbaine. On utilisait une technique qui s'appelle l'aquaponie, notamment pour fabriquer nos potagers. Et une entreprise de coworking ensuite. Et puis j'ai arrêté ça pour reprendre mon BPREA et créer ce projet-là.
Et du coup, petite question pour nous qui devient traditionnelle. Est-ce que tu as une recommandation culturelle ou autre à partager?
Alors je vais même en donner deux recommandations. La première, c'est: n'attendez pas après la chambre d'agriculture pour avancer. Leur rôle, c'est pas de vous pousser, mais c'est de répondre et de vous accompagner quand vous faites des demandes, j'ai l'impression. Donc soyez proactif là-dessus. Et la deuxième, c'est vraiment une très belle formation à laquelle j'ai participé avec Vert de Terre Production, qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant, qui est à distance, qui est très bien construite et qui permet de rencontrer en visio des professionnels chaque semaine qui sont installés depuis plus ou moins longtemps, mais en tout cas qui partagent toutes leurs bonnes pratiques et qui n'ont aucun problème à partager tous leurs chiffres, toutes leurs réussites et tous leurs déboires aussi. Donc c'était vraiment très intéressant.
Ensuite, direction le pays Rochelais, entre La Rochelle et Rochefort. J'ai eu une semaine de stage à l'Arrosoir, une association qui accompagne des publics en insertion, ici avec deux activités, maraîchage et boulangerie. J'avais vraiment envie de venir découvrir cet asso qui réunit deux thématiques qui m'animent, l'insertion et l'agriculture durable.
Et heureux hasard, l'asso est à 5 minutes de chez une amie qui vient de s'installer dans la région. On a donc passé ces quelques jours avec elle et c'était bien cool. Encore merci Emeline pour l'accueil.
Cette semaine en immersion, j'ai découvert plein de choses.
Côté maraîchage.
L'équipe est accompagnée par deux encadrants techniques. Cette semaine au programme, par exemple, récolte de patates douces, plantation de fèves ou encore nettoyage des fraisiers. J'ai aussi eu l'occasion de participer à la répartition dans les paniers, puisque le principe, c'est que les récoltes soient distribuées aux adhérents. Et j'ai pu échanger un petit peu avec tout le monde et rencontrer l'équipe. Je laisse d'ailleurs le micro à Stéphanie, qui a été accompagnée pendant 3 ans par l'asso.
Alors bonjour, comme tu viens de le dire, mon prénom c'est Stéphanie, j'ai 49 ans. Je suis originaire du nord de la France, le 59 Tourcoing. Et donc je suis arrivée dans la région il y a un peu plus de 20 ans. Et là, actuellement, nous sommes à Arrosoir, une association de chantiers d'insertion, principalement dans le maraîchage. Donc moi, je suis dans le maraîchage. Et il y a aussi le côté boulangerie, où ils font du bon pain bio. Donc tous nos légumes sont bio, évidemment. On va du semis à la plantation, à la récolte, à la vente et à la dégustation de nos produits. Et pour le coup, j'en suis assez fière.
Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait pendant ces quelques temps passés à Arrosoir pour ton parcours et qu'est-ce que tu voudrais faire après ?
Alors, quand je suis arrivée à Arrosoir, je ne connaissais absolument pas le maraîchage. Donc, j'ai tout découvert et de là est née une passion. Alors, donc là, ça fait 3 ans que je suis là. Donc, c'est mon dernier jour. Hein. Donc, il y a un pincement au cœur, évidemment, mais je pense continuer à titre personnel et plus professionnel, parce que malheureusement, j'ai des petits soucis de santé qui font que je dois changer de direction professionnelle. Alors, il va falloir que je trouve une autre voie. L'idéal, ce serait un métier passion, donc à moi de découvrir mes passions.
Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as été accompagnée ici ?
Alors, dans un premier temps, dès mon arrivée, j'ai été très bien accueillie. On sent une atmosphère rassurante, ce qui n'est pas rien quand on est resté longtemps comme moi sans activité professionnelle et avec une vie sociale assez restreinte. Et ce qui est important, c'est qu'on peut aussi s'exprimer. Il n'y a pas de barrière. On peut s'exprimer, on peut évoquer ce qu'on ressent, nos doutes. Et surtout, j'ai repris confiance en moi. J'ai compris que j'avais ma place quelque part dans la société et que finalement, il ne fallait pas que j'aie peur de l'avenir professionnel.
Est-ce que l'Arrosoir t'a proposé quelques formations ou découvertes d'autres univers ?
Alors, Arrosoir nous propose beaucoup de choses très positives. C'est-à-dire que j'ai pu me remettre à niveau maths français, culture générale. On a fait aussi des ateliers sur les addictions, ce qui est intéressant, ça permet de comprendre beaucoup de choses. J'ai pu passer mon brevet de secourisme professionnel que j'ai obtenu à grand succès, donc j'en suis plutôt fière. J'ai effectué des stages à l'extérieur, donc toujours dans le maraîchage, et ça m'a permis de voir les différents modes de culture, donc c'était très enrichissant. Si c'était à refaire, je le referais, je reviendrais à Arrosoir, si c'était à refaire. J'ai beaucoup été soutenue aussi par l'ASP, le service administratif d'Arrosoir, bien évidemment les encadrants, Claire et Michael, qui m'ont beaucoup soutenue, rassurée. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui et que je suis prête à vivre d'autres aventures et à encore faire un fabuleux voyage.
Eh bien, super, merci. Pour finir, on a une petite question qu'on aime bien, c'est demander une recommandation. Est-ce que tu en as une en tête ?
Alors oui, j'en ai une. Je vous invite à découvrir une lecture. C'est un livre qui s'appelle « Sur la route » de Jacques Kerouac. Et en vous souhaitant bonne lecture et bon voyage.
Est-ce que tu as un légume préféré ?
Alors, mon légume préféré, c'est le poivron. J'adore ça. Je pourrais en manger à toutes les sauces.
Vous en faites ici ?
On en fait. On fait beaucoup de choses et les poivrons sont délicieux. Et le fruit, ce serait la pastèque. Et on en fait aussi. Donc je vous invite à vous abonner et venir déguster nos fruits et légumes de saison.
Côté boulangerie maintenant.
Là, c'est la découverte complète. C'est un atelier qui a 1 an et qui est venu compléter l'activité maraîchage de l'association. Ça permet de proposer du pain dans les paniers des adhérents et une autre activité au public en insertion. Et bonus qui rend la démarche très cohérente à mes yeux, une partie de la farine est produite juste à côté de l'asso et tous les pains sont au levain, ce qui les rend plus nourrissants et avec moins de gluten, puisqu'ils ont été prédigérés par le levain justement. À savoir aussi que la farine utilisée est moins fine, Par exemple, on prend généralement de la T45, c'est ce qui est marqué sur le paquet et ça correspond au type de farine. Alors qu'ici, c'est plutôt de la T85, ce qui la rend plus nourrissante et qui fait qu'on jette moins l'écorce du grain.
Et puis, on a goûté le pain, il est excellent.
J'ai aussi eu la chance de découvrir plus globalement le fonctionnement de l'association, notamment ses étapes de développement et le métier d'assistante socio-professionnelle avec Stéphanie, qui accompagne les personnes en insertion dans leur parcours. Elle fait un suivi régulier pour les aider à mettre en place les différentes étapes et leur permettre de repartir vers de nouvelles aventures et dans de bonnes conditions à l'issue de leur passage à l'arrosoir. Par exemple, le mercredi après-midi, je l'ai accompagnée pour une visite de l'imprimerie rochelaise dans le cadre d'un événement Escale chez les pros. L'idée, c'était d'accompagner une personne qui souhaite travailler dans le graphisme et d'en profiter pour leur demander de la recevoir en stage pour une semaine de découverte. Et ça tombe bien, une adhérente de l'asso y travaille, ça ouvre aussi quelques portes. Un grand merci à toute l'équipe pour l'accueil, c'était une belle immersion.
On poursuit le mois chez Rémi. Cette fois-ci, on assiste à l'arrachage. Très concrètement, on a d'abord fait un peu de manutention avec le rangement de l'irrigation et des bâches utilisées pour couvrir le sol. Puis on a tiré les arbres et on les a sortis de leurs trous pour les mettre en bottes par combinaison de porte-greffes et de greffons. Ensuite, on les place en jauge.
La jauge, c'est un espace qui va accueillir ces bottes d'arbres pendant l'hiver, le temps de la vente. Elle doit donc être de composition plutôt aérée et bien organisée pour permettre de préparer les commandes et de sortir les arbres sans difficulté.
C'est une période importante pour les pépiniéristes, car ça concrétise l'ensemble du travail qui a été fait avant. C'est à ce moment-là qu'on peut constater la taille des arbres, leurs racinaires, leurs pousses. D'autant plus que pour Rémi, c'est la première année sur ce terrain. Donc ça se traduit par pas mal d'observations, de recherches, de modifications potentielles pour la saison prochaine. Par exemple, il souhaite modifier ses écartements entre les lignes, tenter de cultiver en interrang, tester le désherbage mécanique pour se passer de bâches et réfléchir à propos de l'apport de matière organique. Nous étions 5 au total et cela a permis de faire l'ensemble sur 4 jours. C'est typiquement le genre de travaux, intense sur un temps court, qui nécessite d'être assez nombreux selon moi. J'imaginerais pas faire la même chose en étant seul.
Tous ces arbres n'attendent plus qu'à trouver preneur, à bon entendeur.
Et pour finir cet épisode, voici nos recommandations du mois.
De mon côté, je vous conseille une BD que j'ai dévorée, Racine, de Lou Luby. Il n'est pas question d'arbres dans cette BD, mais de Rose, qui a les cheveux crépus et qui rêve de les avoir lisses. Elle serait prête à tout pour se conformer aux normes sociales et échapper au sexisme et au racisme, quitte à gommer son identité métissée. Entre récits de vie et enquête, c'est une BD sur l'acceptation de soi et de ses origines.
Je vous propose de lire le roman Le ministère du futur, encore un récit d'anticipation, cette fois-ci écrit par Kim Stanley Robinson. L'histoire commence en 2024, après une énorme canicule en Inde, puis la mise en place, à la COP 2024, d'une entité missionnée pour défendre les générations futures. On suit l'histoire des dirigeants de ce ministère du futur, d'une personne ayant vécu la grande canicule en Inde, ou encore de groupes d'action écologistes. C'est une fiction, néanmoins basée sur des données et des situations réelles. On y découvre par exemple des recherches scientifiques sur le sujet, des indicateurs pouvant remplacer le PIB en intégrant la dimension écologique, ou encore des débats et des projections sur les manières d'agir qui me semblent d'actualité.
Dans le prochain épisode, on vous racontera notre mois de novembre et notamment notre woofing dans une ferme cavernicole. Donc sous terre, ils font des champignons et des légumes forcés, par exemple des endives.
À bientôt.
À plus.
Dans le bus.
Cet épisode est monté avec l'aide de Quentin de la MJC Bobby Lapointe.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Bifurcation pour voir quelques photos qui nous permettent d'illustrer nos propos et pour être informé de la sortie du nouvel épisode. Pour être ajouté à la liste de diffusion, envoyez un mail à bifurcationvf@proton.me. Mi, ça s'écrit ME.